Chapitre 3. Révélation, inspiration et témoignage des Écritures. Angel M. Rodriguez. Ce que dit la Bible sur elle-même est aussi important que le message qu'elle transmet. La valeur du message, et notamment la façon dont il fait autorité, dépendent directement du témoignage de la Bible sur elle-même. Cela souligne l'importance d'adopter une approche biblique du processus de révélation et d'inspiration. Habituellement, le mot « révélation » est utilisé pour désigner les révélations surnaturelles de Dieu à son sujet, sa volonté, sa vérité et ses plans à un être humain appelé prophète. Le mot « inspiration » fait généralement référence au processus grâce auquel ces informations étaient communiquées de façon fiable par le prophète. Ces définitions sont utiles, mais doivent être étudiées à la lumière des Écritures. Dans ce chapitre, nous résumerons certains arguments bibliques concernant la révélation et l'inspiration, ainsi que la contribution d'Ellen White, et nous conclurons par un bref paragraphe au sujet de l'écriture elle-même. Arguments bibliques. Les arguments bibliques montrant que la Bible est inspirée ne manquent pas, et ont été étudiés par de nombreux théologiens adventistes. Ainsi, dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur certains passages importants et nous nous efforcerons de résumer ces arguments. La question de l'origine et de la nature de la Bible est abordée dans deux passages bibliques majeurs, 2 Timothée 3, verset 16, et 2 Pierre 1, verset 20-21. Ils peuvent être utilisés pour définir le cadre dans lequel nous pouvons étudier l'origine et la nature de la Bible. Révélation et inspiration. Dans 2 Timothée 3, verset 16. Paul écrit à Timothée au sujet de la période difficile qu'ils vivent et de la nécessité de lutter contre les faux enseignants. Il encourage Timothée à s'opposer à eux et à retenir les véritables enseignements qu'il a reçus, parce qu'ils proviennent des écrits sacrés inspirés par Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 16, Paul s'intéresse surtout à la fonction de la Bible, à son utilité pour l'Église et à l'expérience des croyants. Cependant, il associe la fonction de la Bible et sa nature. Tout d'abord, il mentionne l'objet et l'étendue de la révélation. Le texte dit clairement que « toute écriture est inspirée ». Le mot « écriture », « graphe » en grec, est généralement utilisé dans le Nouveau Testament pour faire référence à la littérature biblique, l'écriture. Dans d'autres passages du Nouveau Testament, le mot « écriture » au singulier est employé pour désigner une partie spécifique de l'Ancien Testament, par exemple Luc 4, verset 21, Jean 19, verset 37, mais dans la plupart des cas, il désigne simplement l'écriture dans son ensemble, par exemple Galates 3, verset 22, Jacques 4, verset 5. Dans 2 Timothée 3, verset 16, le mot « écriture » désigne les saintes écritures, du moins l'Ancien Testament. Dans 1 Timothée 5, verset 18, il est utilisé pour introduire une citation de l'Ancien Testament. Dans ce cas précis, le mot « écriture » désigne la totalité des écritures dont un passage est cité. Dans 2 Timothée 3, verset 16, l'idée selon laquelle le mot « écriture » fait référence à la totalité des écritures est sous-tendue non seulement parce que c'est la façon dont ce terme est employé dans le Nouveau Testament, mais également en raison du mot « toute ». Toute écriture peut signifier chaque écriture, autrement dit chaque partie des écritures ou la totalité de l'écriture. L'idée est la même. Si chaque partie de l'écriture est inspirée, alors la totalité l'est également. L'idée que l'expression « toute écriture » implique que seules certaines parties des écritures seraient inspirées n'est pas acceptable en raison du contexte. Deuxièmement, Paul aborde la question du lien entre l'inspiration et les Écritures. Le terme grec « théopneustos », traduit par « inspiré », n'est utilisé que dans ce passage du Nouveau Testament. Ce n'est pas un verbe, mais un adjectif verbal formé par la combinaison de deux mots grecs « théos », Dieu, et « pneo », soufflé, inspiré, auquel le suffixe d'un adjectif verbal a été ajouté « tos ». On peut le traduire de deux façons différentes. A. Inspirer Dieu, c'est-à-dire faire réfléchir au sujet de Dieu en étant rempli du souffle de Dieu, ou B. Inspirer / souffler par Dieu, ce qui signifie que l'écriture est le fruit de l'inspiration de Dieu. La plupart des commentateurs considèrent que la deuxième définition est la bonne en raison du suffixe ajouté au terme grec « tos », évoquant un sens passif. Le lien entre ce terme et l'expression qui précède, « toute écriture », est débattu par certains théologiens. Une fois encore, on peut traduire cela de deux façons. A. Toute écriture inspirée par Dieu est, ou B. Toute écriture est inspirée par Dieu. La première traduction pourrait signifier que toute l'écriture n'est pas inspirée, alors que la deuxième veut dire que toute l'écriture est inspirée. La plupart des théologiens considèrent que l'ordre des mots en grec justifie la deuxième traduction. Le contexte est plus important encore. Comme nous l'avons indiqué, il montre que l'apôtre ne cherche pas à faire une distinction entre ce qui est inspiré par Dieu dans la Bible et ce qui ne l'est pas. Une telle distinction n'est pas conforme au contenu du Nouveau Testament, et ce verset ne confirme pas sa pertinence. Troisièmement, Paul aborde la question du sens même de l'inspiration. Que signifie l'expression « toute écriture est soufflée par Dieu » ? Cela signifie qu'elle a été « inspirée par Dieu ». Le verbe « inspirer » vient du latin « inspirare », « souffler », « inspirer dans ». Et l'une de ses significations est « respirer », « souffler sur » ou « dans ». Ce passage nous dit que l'écriture est le fruit du souffle de Dieu. C'est grâce au souffle de Dieu qu'Adam vint à la vie, Genèse 2, verset 7, et que l'univers fut créé par Dieu, Psaume 33, verset 6. La même puissance créatrice divine fut nécessaire pour amener l'écriture à la vie. Cela signifie que l'écriture est le résultat de l'œuvre merveilleuse et insondable de Dieu. C'est extrêmement important dans la mesure où cela rend la Bible unique sur le plan de sa nature et de son autorité. Dieu utilisa les êtres humains, mais l'apôtre nous dit que l'écriture en tant que telle n'est pas à mettre à leur crédit, mais à celui de Dieu. Étant donné que toute l'écriture trouve son origine en lui, elle est fiable et digne de confiance. Le contexte du mot « théopneustos » indique qu'il fait référence à la nature sainte des écritures, à leur origine divine et à leur puissance permettant de sanctifier les croyants. Nous pouvons donc tirer deux conclusions au sujet de ce passage. Premièrement, le texte n'explique pas le mécanisme de l'inspiration de Dieu et ne précise pas le mode d'inspiration employé. Il s'agit manifestement d'une expression métaphorique utilisée pour transmettre le message que Dieu fut non seulement directement impliqué dans la création des Écritures, mais qu'il en fut lui-même le Créateur. Deuxièmement, le texte ne fait pas de distinction entre la révélation et l'inspiration. Ce type de distinction est le résultat de débats théologiques motivés par le désir d'établir des nuances qui devraient, paraît-il, nous aider à comprendre quel était le lien entre Dieu et ses instruments humains. Dans la Bible, la révélation et l'inspiration sont un seul et même processus. Révélation et inspiration dans 2 Pierre 1, versets 20-21.
Pierre nous donne davantage d'informations sur la signification du processus de révélation et d'inspiration que Paul dans 2 Timothée 3, verset 16. Plusieurs éléments méritent d'être étudiés. Il convient de réfléchir tout d'abord au sens de l'expression « aucune prophétie de l'Écriture » (TOB). Elle peut laisser à penser que Pierre fait spécifiquement référence aux parties prophétiques de l'Ancien Testament. Certes, l'apôtre aborde la question de la nature prophétique de l'Écriture, mais ce qu'il dit à ce sujet s'applique à l'Écriture même. Le contexte indique qu'il n'essaie pas de faire une distinction entre les prophéties de l'Écriture et d'autres passages bibliques. Dans ce cas, le mot « écriture », « graphé », fait clairement référence à la totalité de la Bible. Deuxièmement, nous devons étudier l'expression « interprétation privée », « TOB ». Certaines traductions ont donc ajouté le mot « prophète ». Mais en grec, le texte dit « l'interprétation d'une personne, idias epoulouseos ». On peut lire ce passage de deux façons, comme le montrent ces différentes traductions. « Aucune prophétie n'est le fruit de l'interprétation personnelle du prophète », traduction française de la NIZ, ou bien « aucune prophétie de l'écriture n'est affaire d'interprétation privée », TOB. Le cœur de ce verset est le terme « idias », de quelqu'un même.
La deuxième traduction suggère qu'un individu, en tant que tel, n'est pas libre d'interpréter les Écritures. Cet argument est utilisé pour encourager le ministère d'enseignement de l'Église. La première traduction évoque l'idée que l'Écriture ne résulte pas ou ne tire pas son origine de l'interprétation particulière du prophète. Il y a une opposition entre l'interprétation privée et l'Esprit Saint. Cette opposition existe-t-elle entre l'Esprit et le lecteur ou l'Esprit et l'auteur? Bien que l'introduction du mot « prophète » dans ce texte semble maladroite, il semble que ce soit l'interprétation la plus pertinente pour plusieurs raisons. Le terme « idios » était utilisé dans la littérature juive hellénistique et les premières déclarations chrétiennes comme un terme semi-technique dans le but de réfuter l'origine humaine des prophéties. Cela montrerait donc que Pierre évoque l'origine des prophéties et non l'interprétation des prophéties. De plus, il n'y a pas d'exemple marquant dans lequel le nom « épilusis » ou le verbe « épiluen » serait utilisé pour faire référence à l'interprétation humaine de l'Écriture. Les cas où nous nous approchons le plus de ce sens sont ceux dans lesquels ces termes sont employés pour faire référence à l'interprétation de Dieu d'une révélation accordée à un prophète. Par exemple, dans la version grecque, les deux termes sont utilisés pour évoquer l'interprétation que Dieu révéla à Joseph concernant les rêves de l'échanson et du panetier. Genèse 40, verset 8, 41, verset 8, 12. L'accent est mis de nouveau sur l'origine des prophéties, et non sur leur interprétation par les lecteurs. Enfin, dans le contexte de notre passage, Pierre aborde la question non pas de l'interprétation privée des prophéties, mais celle de leur authenticité. Le thème qu'il aborde est celui de l'origine et de la fiabilité de l'enseignement chrétien au sujet de la grâce, de la sainteté et du ciel. Le même Dieu que les apôtres entendirent parler lors de la transfiguration de Jésus parla également par l'intermédiaire des prophètes. L'argument développé dans les versets 20 et 21 est une conclusion logique et nécessaire du paragraphe précédent. Ainsi, nous pouvons faire confiance au récit apostolique de la transfiguration parce que Dieu parla. Et nous pouvons faire confiance à l'Écriture parce que Dieu parla par l'intermédiaire d'auteurs humains. Les prophètes n'inventèrent pas ce qu'ils écrivirent. Troisièmement, nous devons étudier l'expression « volonté humaine ». Le texte de 2 Pierre 1, verset 21, a une structure en parallélisme antithétique utilisée dans le but de mettre l'accent sur l'origine divine des prophéties. Aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. C'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. La négation du début du verset est exprimée de façon claire, comme l'indique l'emploi des mots « aucun » et « jamais ». L'idée que les prophéties pourraient être le fruit d'un désir humain est clairement réfutée. Elles sont d'origine divine. Le verbe grec traduit par « n'a été apporté » est « phéro » et il signifie donc « apporter, porter, mener ». Dans ce cas, il signifie qu'aucune prophétie n'est jamais venue d'un élan humain. Quatrièmement, nous devons faire le lien entre l'individu et l'esprit. L'expression « de la part de Dieu » indique que les prophètes ne prenaient pas la parole de leur propre initiative, mais qu'ils y étaient encouragés par l'action divine. « Elalaisan apotheou » ils parlaient de la part de Dieu. L'accent est mis ici sur la transmission du message reçu de Dieu ou bien sur le moment où il était transmis à autrui par la parole humaine. Lors de ce processus, les prophètes étaient portés par le Saint-Esprit. Le verbe employé ici est le même que celui qui est utilisé dans la première partie du verset, « phéro ». L'idée développée ici est celle d'être poussé, conduit, par la puissance de l'Esprit et non par la volonté humaine. Ces deux passages que nous venons d'étudier brièvement sont riches d'enseignements au sujet de la révélation et de l'inspiration. Premièrement, ils montrent tous deux que Dieu et les êtres humains sont impliqués dans le processus de révélation et d'inspiration. Cependant, il est dit clairement que la volonté humaine n'a pas été engagée dans la création du message et n'a rien à voir avec son origine. Le rôle des prophètes est bien défini. Ils recevaient les messages de Dieu, mais en dehors de cela, ils se contentaient de parler, elalaisan, de proclamer et de communiquer les explications, les déclarations et les interprétations dont Dieu était l'auteur. Manifestement, ils parlaient dans une langue qu'ils connaissaient. Deuxièmement, il convient de souligner qu'en dehors de l'expression « portée par l'esprit », Rien n'est dit dans ces passages sur la façon dont fonctionnait l'interaction entre les hommes et Dieu dans le processus de révélation et d'inspiration. Le but de la théologie est d'étudier l'Écriture afin de tenter de comprendre sa nature divine et humaine. Ces passages bibliques ne confirment pas l'idée que la révélation et l'inspiration sont des moyens par lesquels Dieu dicte aux prophètes ce qu'ils doivent écrire. Troisièmement, ces passages ne font pas la distinction entre la révélation et l'inspiration. Selon la perspective divine, la réception et la communication du message sont inséparables. Toute tentative extrême visant à les distinguer n'est pas conforme à la Bible et crée une fausse dichotomie. Cinquièmement, la transmission du message, que l'on appelle généralement inspiration, se faisait sous l'inspiration du Saint-Esprit qui, à ce moment précis, touchait et portait le prophète tandis qu'il transmettait à d'autres la révélation qui lui avait été donnée. Cela montre que les paroles des prophètes, qu'elles soient orales ou écrites, étaient guidées par Dieu. Autres arguments bibliques. Il apparaît dans toute la Bible que Dieu a parlé aux êtres humains par l'intermédiaire d'autres êtres humains. Les prophètes parlaient de la part de Dieu, et celui-ci identifiait leurs paroles aux siennes. « Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Deutéronome 18, verset 19. Dieu utilisait le langage humain comme moyen de communication. Les prophètes étaient ses messagers et parlaient pour lui, comme l'indique l'emploi de l'expression « Ainsi parle le Seigneur ». Ils étaient pleinement conscients du fait que le message qu'ils proclamaient venait de Dieu. « Maintenant, va, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Exode 4, verset 12. Cependant, la personnalité du prophète n'était pas neutralisée. Nous constatons qu'il y avait une union de l'humain et du divin. « Je serai moi-même avec ta bouche. » Dieu ne prenait pas la place des prophètes au point que ceux-ci n'étaient pas impliqués dans ce qui se déroulait. Dieu leur enseignait ce qu'ils devaient dire, il les instruisait, et il leur demandait de transmettre ses paroles au peuple. Ézéchiel 2, verset 7. Lorsque Dieu appela Jérémie à accomplir un ministère prophétique, il lui dit « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Jérémie 1, verset 9. Il devint l'instrument de Dieu pour la réception et la proclamation de son message. Une fois qu'ils avaient reçu le message de Dieu, les prophètes devaient le transmettre au peuple. Bien souvent, ils étaient appelés à le proclamer sous la forme d'un sermon ou d'un discours. « La parole du Seigneur me parvint. Va, crie à Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. » Jérémie 2, verset 1, 2. Les messages de Dieu devaient être proclamés largement et les prophètes devaient les transmettre à la foule. Jérémie 22, verset 1, 26, verset 2. Parfois, Dieu demandait aux prophètes de noter ses révélations et de les transmettre par écrit. Il dit à Moïse « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne. » Exode 17, verset 14. Les messages devaient être conservés pour la suite. Dieu demanda ceci à Jérémie. « Prends un livre rouleau. Tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, depuis les jours de Josias jusqu'à ce jour. » Jérémie 36, verset 2. L'action du Seigneur auprès des prophètes ne s'arrêtait pas à la révélation de ses messages. Il était avec eux durant le processus de transmission, s'assurant que ses messages étaient bien exprimés et correctement transmis, comme l'illustre l'expérience de Jérémie. Dieu lui accorda une vision et dialogua avec le prophète.
La parole du Seigneur me parvint. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier, de l'arbre veilleur. Et le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. La parole du Seigneur me parvint une deuxième fois. Que vois-tu ? Je répondis, je vois une marmite qui bouillonne du côté du nord. Et le Seigneur me dit, « C'est du nord que le malheur déferlera sur tous les habitants du pays. » Jérémie 1, versets 11 à 14. Dans cet exemple, nous constatons que, même après avoir donné une vision, le Seigneur voulut s'assurer que le prophète serait capable de transmettre son message. La transmission orale par les prophètes concernant la révélation que le Seigneur leur avait accordée devait correspondre à ce qu'ils avaient reçu. La parole et la pensée étaient indissociables.
Dieu était impliqué dans le processus de révélation et d'inspiration du début à la fin. Ellen G. White et le processus de révélation et d'inspiration. Le témoignage des Écritures concernant le processus de révélation et d'inspiration est confirmé grâce au ministère prophétique d'Ellen G. White. Dans ses écrits, elle met l'accent sur l'inspiration de la pensée de façon équilibrée, considérant que l'incarnation du message dans les paroles humaines joue un rôle important dans ce processus. Elle utilisa l'idée de l'inspiration de la pensée pour souligner le fait que c'est la personne, autrement dit le prophète, qui est inspirée. Elle déclare « Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même, à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Quant aux mots, ils portent l'empreinte de l'individualité. L'Esprit divin se répand. Il s'unit à l'esprit de l'homme, si bien que les déclarations de l'homme sont la parole de Dieu. » Ellen White s'efforce de décrire ce qu'il se passe quand Dieu s'approche des êtres humains et les appelle à être des prophètes, et elle aborde donc le mystère de la révélation et de l'inspiration. Sa déclaration est particulièrement intéressante. Tout d'abord, Dieu considère l'être humain dans sa totalité, et pas uniquement un aspect de sa personnalité, par exemple ses compétences orales ou écrites. Dieu établit une relation interpersonnelle unique avec les êtres humains. Ainsi, l'inspiration ne doit pas être réduite à l'usage divin d'une compétence particulière du prophète. L'esprit, le corps, l'âme, les émotions, autrement dit la personne entière, sont engagés dans cette expérience. Cela est manifestement fondé sur l'approche biblique de la nature humaine, à savoir la nature indivisible de la vie humaine. Deuxièmement, Ellen White décrit le processus mystérieux grâce auquel le message divin, ou les paroles divines, s'incarnent dans la condition humaine. Elle déclare que l'Esprit divin se répand. Elle veut dire par là que l'Esprit et la volonté de Dieu interagissent et s'associent à l'Esprit et à la volonté de l'être humain de façon unique. Ainsi, ce qui est scrimé par l'intermédiaire humain, les déclarations de l'homme, est la parole de Dieu. Manifestement, le mystère demeure, mais il est clair que, dans le processus de révélation et d'inspiration, la personne dans sa totalité est utilisée par Dieu tandis qu'elle vit une expérience unique. C'est ce que Pierre dit quand il déclare « C'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. » 2 Pierre 1, verset 21. Troisièmement, Ellen G. White développe l'idée d'un processus d'incarnation de la révélation et de l'inspiration. Elle développe ce sujet ainsi. La Bible, avec ses vérités révélées par Dieu dans le langage des êtres humains, présente une union du divin et de l'humain. Cette union était déjà une réalité dans la nature du Christ, qui était le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Ainsi, cette vérité concerne la Bible comme le Christ. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. Jean 1, verset 14. Les pensées divines s'incarnent non seulement dans l'esprit du prophète, mais également dans le langage qu'il emploie. Elles ne peuvent être placées dans l'esprit de l'homme si Dieu ne consent pas à les donner, si elles ne s'incarnent pas. Le Seigneur parle aux êtres humains dans un discours imparfait. Par conséquent, avec leur sens dégénéré et leur capacité de perception médiocre et humaine, ceux-ci peuvent comprendre ces paroles. C'est ainsi que s'exprime la condescendance de Dieu. Il va à la rencontre des êtres humains déchus, là où ils se trouvent. La Bible, aussi parfaite soit-elle dans sa simplicité, ne décrit pas les grandes idées de Dieu, car des idées infinies ne peuvent s'exprimer parfaitement par l'intermédiaire d'êtres dont la pensée est limitée. Ellen White semble dire que Dieu s'approche de l'homme et qu'il adapte et ajuste ses pensées et sa volonté au schéma de pensée et au mode d'expression de l'homme afin de pouvoir communiquer avec lui. Dieu exprime ses pensées divines dans un langage humain imparfait, un langage entaché par le péché. C'est le seul langage dont nous disposions et Dieu consent à l'utiliser afin de nous révéler son caractère et sa volonté caractérisée par l'amour. Cela implique l'existence d'une corrélation, aussi limitée soit-elle, entre la pensée et le langage divin d'une part, et la pensée et le langage humain d'autre part. Cette corrélation est basée sur le fait que nous ayons été créés à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26. Le processus de révélation et d'inspiration met en évidence la transcendance de Dieu, son immanence et sa proximité avec nous. Parfois, Ellen White met l'accent sur la transcendance divine afin de souligner la dimension humaine du processus de révélation et d'inspiration. Cette dimension humaine ne fait pas obstacle à la fiabilité du message divin. Quatrièmement, Ellen G. White affirme clairement que les mots des prophètes ne sont pas inspirés. Pourtant, elle ne sépare pas totalement le processus de transmission et de réception du message du processus de révélation et d'inspiration. Elle souligne que les mots employés par les prophètes ne leur étaient pas donnés ou dictés dans un langage ou un vocabulaire divin. Elle évoque deux moments distincts dans le processus de révélation et d'inspiration, à savoir la réception puis la rédaction du message. Lors de la première étape, Dieu est impliqué directement de façon unique dans la transmission au prophète. Lors de la seconde étape, le prophète œuvre pour transmettre ce message au peuple. Ellen White dit alors « Bien que je dépende de l'Esprit du Seigneur pour écrire mes vues comme pour les recevoir, les mots que j'emploie pour décrire ce que j'ai vu sont les miens, sauf quand il s'agit de déclarations faites par un ange que j'ai soin de placer entre guillemets. » Cela ne signifie pas que les prophètes étaient livrés à eux-mêmes quand ils transmettaient leur message sous forme écrite ou orale. Elle décrit ainsi sa propre expérience. « Je dépends de l'Esprit du Seigneur pour relater ou décrire par écrit la vision, de la même façon que je dépends de lui lorsque je reçois cette vision. » Cette dépendance de l'Esprit du début à la fin de l'expérience indique clairement que la transmission du message fait partie du processus de révélation et d'inspiration. Les mots employés par les prophètes ne sont pas inspirés, dans le sens où ce ne sont pas les mots exacts de Dieu, mais des mots humains dans lesquels la parole divine s'incarne. Enfin, cela signifie que l'Esprit guidait les prophètes dans le processus d'écriture, dans le sens où il s'assurait qu'ils utilisaient au mieux leur propre vocabulaire et exprimaient de façon fiable le message qu'ils avaient reçu. Dans leur quête de précision, les prophètes pouvaient parfois, sous l'influence de l'Esprit, revoir ou reprendre leurs propres écrits afin de clarifier, d'élargir ou d'adapter à des situations nouvelles le contenu du message qu'ils avaient reçu. Écriture et inspiration. Nous avons étudié ce que dit l'écriture sur elle-même et la contribution des écrits d'Ellen G. White au sujet du processus de révélation et d'inspiration. Certaines personnes préfèrent définir la doctrine de la révélation et de l'inspiration en se basant sur le phénomène de l'écriture, les caractéristiques de la Bible. Leur approche est donc inductive. Elle se concentre sur ce qu'elle considère comme étant la dimension humaine de l'écriture, les erreurs apparentes et la présence importante d'éléments culturels dans le texte biblique. Elles en concluent que la dimension divine se trouve derrière le texte lui-même, par exemple dans les pensées inspirées par Dieu ou les valeurs mises en avant par le texte. Toutes les autres informations trouvées dans la Bible sont donc suspectes.
Nous avons commencé par évoquer le témoignage de l'Écriture sur elle-même concernant sa nature, et nous avons exprimé de quelle façon nous envisagions le processus de révélation et d'inspiration en fonction de cela. Cependant, nous ne pouvons ignorer le phénomène de l'Écriture et ce que nous y trouvons quand nous la lisons. Nous devons prendre en considération les deux approches sans faire de ce phénomène notre première source d'information permettant de définir le processus de révélation et d'inspiration. Il est important de noter le fait que nous trouvons des différences et des contradictions mineures dans la Bible. Ces éléments se trouvant dans l'Écriture telle que nous l'avons reçue, nous devons admettre que le processus de révélation et d'inspiration ne les exclut pas toujours. Cela étant dit, nous devons étudier le phénomène de l'Écriture afin de déterminer si oui ou non et dans quelle mesure cela exerce une influence sur notre approche du processus de révélation et d'inspiration de la Bible tel qu'il est défini par l'Écriture elle-même. Les prophètes et leurs sources. Nous avons vu que l'Écriture trouve son origine en Dieu, mais nous savons aussi que les auteurs bibliques utilisaient parfois des documents ou faisaient des recherches pour écrire leurs livres. C'est ce que nous trouvons dans la Bible. Par exemple, Luc affirme clairement qu'il fit des recherches pour rédiger son évangile et qu'il voulait rédiger son texte d'une manière suivie. Luc 1, verset 3. Nous pouvons penser que Dieu, par son esprit, le guida dans le choix de ses sources et qu'il fit en sorte que ce soit un moyen pour lui de révéler sa volonté pour nous.
En reprenant les paroles de 2 Pierre 1, verset 21, nous pouvons même dire que Luc fut porté par l'Esprit Saint. 2 Pierre 1, verset 21. Tandis qu'il étudiait les sources, les sélectionnait et les organisait. Le livre des Proverbes est un autre exemple intéressant de ce processus. Ce livre est un ensemble de déclarations écrites par différents auteurs. Proverbes 1, verset 1, 10, verset 1, 25, verset 1, 30, verset 1, 31, verset 1. Deux séries de ces proverbes furent peut-être rédigées par des auteurs qui n'étaient pas israélites. Agur, Proverbe 30, la mère du roi Lémuel, Proverbe 31, voire Proverbe 30, verset 9. Ces deux séries contiennent des proverbes utiles et tout à fait compatibles avec l'objectif théologique du livre. Puisque nous ne possédons pas les compositions d'origine, il nous est impossible de déterminer si l'auteur inspiré modifia certaines parties avant de les intégrer dans son livre. Heureusement, dans plusieurs autres cas, nous disposons des documents originaux utilisés par l'auteur. L'enseignement d'Aménémopée et les proverbes. Le premier cas se trouve dans Proverbes 22, versets 17 à 24, verset 22, une partie généralement appelée « Parole des sages ». Il semblerait que dans ce passage se trouvent certaines déclarations provenant d'un document égyptien rassemblant des maximes, appelé « L'enseignement d'Aménémopée ». Quand une copie de ce document fut découverte en Égypte, les biblistes comprirent rapidement qu'il y avait de nombreux parallèles entre son contenu et cette partie spécifique du livre des Proverbes. Il s'agissait donc de tenter d'expliquer les similarités littéraires. Le document datait de 1188 à 945 avant Jésus-Christ environ, ce qui pouvait laisser penser que le texte biblique composé par Salomon, qui régna de 971 à 931 avant Jésus-Christ, pouvait avoir influencé le texte égyptien. Mais aujourd'hui, même les biblistes conservateurs tendent à penser que ce fut l'inverse. Aujourd'hui, ce document est daté de la période de la 20e dynastie, 1200 à 1081. Le fait que ce texte ait été utilisé dans le livre des Proverbes ne devrait pas nous surprendre. Voir 1er roi 4, versets 29-30. L'enseignement d'Aménémopée, contenant 30 chapitres, fait partie de la littérature de sagesse, et son contenu est intéressant et très proche de la littérature de sagesse biblique. Certains des thèmes principaux de ce document sont la relation entre les individus et les dieux, la richesse et les relations personnelles. Voici quelques-uns des parallèles entre les deux documents. Certains des parallèles entre le livre des Proverbes et l'enseignement d'Aménémopée, Aménémopée, Proverbe. Savoir répondre à celui qui parle, à celui qui envoie un message. Pour te faire connaître ce qui est sûr, des paroles vraies, afin que tu puisses répondre par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Tends l'oreille, écoute la maxime. Tends l'oreille pour écouter les paroles des sages. Ouvre ton cœur pour les comprendre. 22-17. Applique ton cœur à ma connaissance. Prête attention à ces 30 chapitres. Ne t'ai-je pas écrit 30 instructions ? Prête attention à ne pas voler un malheureux. Ne vole pas un pauvre parce qu'il est pauvre. Parole de vie. C'est la lune qui déclare son crime. En effet, le Seigneur défendra leur cause. Il prendra la vie de ceux qui leur ont tout pris. Parole de vie. Ne deviens pas ami de l'homme agité. Ne t'approche pas de lui pour lui parler. Ne fréquente pas l'individu coléreux. Ne va pas avec l'homme furieux. Ne déplace pas les repères des limites des champs. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Le scribe compétent est digne d'être à la cour. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage ? Il se tient devant des rois. Ne mange pas en présence d'un officiel. Si tu t'assieds à table avec un chef, fais bien attention à ce qui est devant toi. Prête attention au récipient qui est devant toi. Fais bien attention à ce qui est devant toi. Ils se sont fait des ailes semblables à celles des oies, et ils se sont envolés dans le ciel. Car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Il y a bien d'autres similarités, mais celles-ci se suffisent à elles-mêmes. Elles pourraient certainement être expliquées de plusieurs façons, mais le fait qu'elles soient rassemblées dans une partie bien spécifique du livre des Proverbes montre qu'il existe une corrélation littéraire entre les deux documents. Si nous acceptons l'idée que le livre des Proverbes a été influencé par l'enseignement d'Aménémopée, ce qui me semble être le cas, nous pouvons faire les remarques suivantes. Premièrement, l'auteur biblique ne s'est pas contenté de copier le document égyptien, mais il a choisi certains passages et il les a placés là où cela lui a semblé pertinent. En d'autres termes, il a fait preuve d'une pleine indépendance en présentant des ressources étrangères qui lui semblaient dignes d'intérêt. Deuxièmement, il a adapté ses ressources au contexte culturel des Israélites. Par exemple, au lieu de conserver l'image des oies trouvées dans Aménémopée, il a utilisé le symbole de l'aigle qui était plus courant en Israël. Troisièmement, il a aussi écarté toute référence au dieu égyptien Thoth et il a utilisé à la place le nom du Seigneur. Quatrièmement, dans certains cas, il a développé les maximes ou il les a raccourcies, alors que dans d'autres cas, il les a citées mot à mot ou il a utilisé les mêmes images. Il a donc adapté ses ressources en fonction de l'objectif qu'il poursuivait et en se laissant guider par l'esprit. Enfin, il ne semble pas y avoir de décalage idéologique entre la signification des maximes d'origine et la façon dont les proverbes les présentent. Cependant, nous pouvons noter deux changements notoires. Le plus significatif est l'élimination du nom des divinités égyptiennes du texte biblique. Par exemple, au lieu du dieu de la lune, nous trouvons très logiquement une référence au Seigneur. Le deuxième changement concerne le lien entre les maximes d'origine et l'alliance. Par exemple, la raison invoquée pour ne pas exploiter les plus pauvres est liée à l'alliance. En effet, le Seigneur défendra leur cause. Il prendra la vie de ceux qui leur ont tout pris. Proverbe 22, verset 23, parole de vie. On peut donc conclure que les ressources égyptiennes ont été redéfinies en fonction de la foi d'Israël afin que, quelle que soit leur origine, elles puissent entrer dans le cadre de la révélation de l'Ancien Testament. En nous basant sur l'approche biblique du processus de révélation et d'inspiration, nous pouvons dire que le choix et l'adaptation de ressources étrangères se sont faits sous la direction de l'Esprit et que, par conséquent, des informations qui n'étaient pas le fruit de l'inspiration divine à l'origine font désormais partie de la parole de Dieu qui est inspirée. Paul et Aratus. Les biblistes s'accordent à dire que, dans le discours qu'il prononça à l'Aréopage d'Athènes, Paul cita le stoïque Aratus de Solès, 315 à 240 avant Jésus-Christ. Son poème le plus célèbre est certainement Phénomène, qui est cité dans les paroles de Paul. Ce poème devint populaire au-delà même du cercle des poètes érudits. Il devint le poème le plus lu après l'Iliade et l'Odyssée dans le monde antique. La citation tirée de ce poème est « Nous sommes aussi sa lignée » Acte 17, verset 28. Pour établir un lien entre lui et ses auditeurs, Paul précise clairement qu'il cite l'un de leurs poètes. Dans le poème d'Aratus, l'adjectif possessif « sa » fait référence au dieu grec « Zeus », compris d'une façon panthéiste. Ainsi, l'idée exprimée par le poète est essentiellement panthéiste. Nous avons tous une part de divin en nous. Dans son sermon, Paul donne à cette citation une dimension chrétienne. Désormais, Dieu fait référence au Père de Jésus, le Créateur, et la notion de panthéisme est totalement absente. Nous avons tous été créés par Dieu à partir d'un seul homme. Verset 26. Paul reprend certainement la notion grecque de l'étincelle de l'être divin en nous, et il évoque l'idée que nous sommes les enfants de Dieu grâce à notre Créateur qui nous a fait, mentionnant donc le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. En réalité, il emploie les mots qui correspondent à son enseignement chrétien. L'apôtre utilise donc ses connaissances de la littérature grecque pour exprimer un message divin, sous l'influence de l'esprit et dans un but missiologique. L'inspiration divine se place au niveau du choix des informations. Jude et le livre d'Enoch. La courte épître de Jude a essentiellement pour but de lutter contre l'influence des faux enseignants au sein de la communauté des croyants, versets 3 et 4. Jude met notamment l'accent sur le jugement de Dieu envers eux. Il justifie sa position en citant une prophétie d'Enoch. Cette prophétie ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais dans un livre juif non canonique appelé Enoch. Ce livre contient des ressources rédigées entre le IVe siècle avant Jésus-Christ est le début de l'ère chrétienne. Jude introduit la citation, déclarant « Hénoc, le septième depuis Adam, a dit en prophète ». Il applique les paroles d'Hénoc à la situation de l'Église de son temps. Voici la prophétie. C'est aussi à leur sujet qu'Hénoc, le septième depuis Adam, a dit en prophète « Le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement contre tous et de les confondre pour toutes leurs œuvres d'impiété et pour toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. » Jude, versets 14 et 15. « Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints, pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants, et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. » Jude cite ce passage pour montrer que le Seigneur viendra juger les actions et les paroles de ceux qui prodiguent de faux enseignements. Il met l'accent sur leurs mauvaises actions, verset 16. Plusieurs remarques méritent d'être faites concernant cette citation. Tout d'abord, son contenu est biblique. Le texte décrit une apparition de Dieu, une théophanie, au cours de laquelle il est accompagné par une myriade de saints, des anges. Cette idée est tirée de Deutéronome 33, verset 2, et, dans le contexte du jugement, se trouve également dans Daniel 7, verset 10, 18, 22, 25. Le langage utilisé pour évoquer l'universalité du jugement est similaire à celui que nous trouvons dans Jérémie 25, verset 30, 31, et Ésaïe 66, verset 15, 16. Le vocabulaire concernant la corruption de la chair semble faire écho aux termes employés dans Genèse 6 à 9. En d'autres termes, les idées contenues dans la prophétie d'Hénoc se trouvent dans le canon biblique et sont donc de nature prophétique.
Deuxièmement, Jude a manifestement adapté cette citation de façon à ce qu'elle corresponde à son intention. Selon lui, la venue de Dieu, la théophanie, fait référence au retour du Christ accompagné par les anges. Les méchants sont notamment les faux enseignants, alors que dans Hénoc, ce sont les méchants de la terre. Troisièmement, il semble que Jude ait utilisé cette citation parce que, grâce à elle, il a trouvé une parfaite organisation des idées qu'il voulait transmettre à la communauté chrétienne à laquelle il s'adressait. Il l'a légèrement modifiée, mais il a conservé son contenu biblique. Quatrièmement, il a probablement attribué la prophétie à Hénoc parce que le document qu'il citait lui était attribué. Ce document était connu et respecté parmi les Juifs et les chrétiens d'origine juive, ce qui était une autre bonne raison pour Jude de le citer. Cependant, un Hénoc n'a jamais obtenu le statut de livre canonique. Ce qui est important, c'est qu'un texte tiré d'un document affirmant contenir une prophétie d'Hénoc ait été choisi par le prophète sous l'inspiration divine et utilisé au service de la doctrine chrétienne. Des contradictions occasionnelles. Quand nous lisons la Bible telle qu'elle est aujourd'hui, nous trouvons certaines contradictions, réelles ou apparentes, qui ne nuisent pourtant en rien à la notion d'inspiration de la Bible et qui, dans la plupart des cas, peuvent être aisément expliquées. Prenons l'exemple des nombres dans les livres historiques de la Bible. D'après 1 Chronique 19, verset 18, David remporta une victoire sur les Araméens, tuant les équipages de 7 000 chars et 40 000 fantassins. Dans 2 Samuel 10, verset 18, il est question des équipages de 700 chars et de 40 000 cavaliers. Dans 1 Rois 5, verset 6, nous découvrons que Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux, alors que dans 2 Chronique 9, verset 25, nous lisons qu'il en possédait 4 000. Dans 2 Rois 24, verset 8, Joïakin avait 18 ans lorsqu'il devint roi, mais dans 2 Chronique 36, verset 9, l'âge mentionné est 8 ans. Il y a plusieurs façons d'aborder ces contradictions afin de les harmoniser. La façon la plus courante, proposée par les théologiens conservateurs, est de considérer qu'il s'agit d'erreurs de transcription faites par les scribes. On peut aussi supposer que certains nombres proviennent tout simplement des sources utilisées par les auteurs bibliques. Nous savons que l'auteur des Chroniques utilisa plusieurs sources différentes, dont certaines sont mentionnées dans le texte. Il est question par exemple des chiffres des Chroniques du roi David, 1 Chronique 27, verset 24. Il s'agit probablement des archives de la cour auxquelles l'auteur biblique avait accès et qu'il utilisa pour rédiger son livre. Nous pouvons donc conclure que, s'agissant des nombres et des noms parfois différents attribués à une même personne, dans certains cas, l'auteur biblique se fia aux sources qu'il utilisait.
D'une certaine façon, c'est un peu comme lorsque certains auteurs attribuent une citation à la mauvaise personne. Matthieu 27, verset 9, la citation n'étant pas de Jérémie, mais de Zacharie 11, verset 12-13. Ces contradictions sans conséquence ne sont pas incompatibles avec l'approche biblique de la révélation et de l'inspiration, parce qu'elles n'ont pas d'impact sur la fiabilité et la véracité des Écritures. Nous pouvons peut-être considérer que, dans le processus de révélation et d'inspiration, l'action du Saint-Esprit respecta le mode de pensée et de rédaction des êtres humains, et que nous ne devrions pas nous attendre à ce que l'Écriture soit parfaite, car seule la Trinité est parfaite. Au contraire, nous ne devrions pas être surpris d'y trouver des imperfections et des limitations, car cela caractérise nos connaissances et notre façon d'écrire. Passage difficile à comprendre. Il arrive aussi que, dans l'Écriture, nous soyons confrontés à des passages dont le sens nous semble confus, ou des passages posant certaines questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse claire. Le fait que la Bible soit inspirée ne signifie pas que tout son contenu soit facile à comprendre. Au contraire, cela implique que, parfois, nous ne comprenions pas pleinement le but et le sens des actions divines. La Bible elle-même le dit. Au sujet des écrits de Paul, Pierre déclara « Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. » 2 Pierre 3, verset 16. Ainsi, il est important d'utiliser les principes herméneutiques appropriés pour étudier la Bible. Cependant, nous devons accepter l'idée que, dans certains cas, nous ne pouvons répondre à toutes les questions que pose tel ou tel passage. Permettez-moi de citer l'exemple de Dieu ordonnant aux Israélites de détruire les Cananéens. Exode 23, versets 32, 33, 34, versets 11 à 16, Deutéronome 2, versets 34, 7, versets 1 à 5, 20, versets 16 à 18.
Nous savons que cet ordre n'était pas arbitraire. Le Seigneur leur accorda un temps de grâce, Genèse 15, versets 13 à 16. Mais ils étaient corrompus au point qu'il n'y avait plus d'espoir, Deutéronome 9, verset 5. Ils devaient donc être confrontés au jugement de Dieu contre le péché et la corruption. Mais au moins deux éléments peuvent nous poser problème. Premièrement, Dieu voulut utiliser les Israélites pour les détruire, Deutéronome 7, verset 2. Dieu aurait pu choisir de détruire lui-même ses nations, mais il décida de demander aux Israélites de le faire. Deuxièmement, dans un certain nombre limité de cas, les femmes et les enfants furent également exterminés. Deutéronome 2, verset 34, 3, verset 6, 20, verset 16 à 18. Tous les exégètes s'accordent à dire que c'est un point difficile à comprendre. Comment donc l'aborder ? Même s'il y a plusieurs façons d'interpréter ces passages, nous devons admettre qu'il est difficile de donner une réponse unique et définitive aux questions posées par ces textes. Nous pouvons aussi éliminer certaines options. D'après notre approche de la nature de la Bible, nous rejetons l'idée que ces textes ne sont pas inspirés et qu'ils décrivent les conséquences naturelles de la haine de l'autre et de la fierté nationale. Le fait que nous ne comprenions pas totalement ces passages n'exclut pas l'idée qu'ils furent inspirés par Dieu. En fait, les textes eux-mêmes précisent que Dieu donna des ordres spécifiques aux Israélites. Nous pouvons également écarter l'idée que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas aussi aimant que le Dieu du Nouveau Testament. Cela n'est pas compatible avec la notion d'unité des Écritures. Le Dieu des deux Testaments est un Dieu d'amour, de miséricorde et de justice. Que faisons-nous donc de ces passages dont le contenu soulève des questions théologiques ? Après avoir exclu certaines hypothèses, nous devons travailler en fonction de ce que nous savons. Dans ce cas, nous savons ce que la Bible enseigne au sujet de Dieu. Nous ne comprenons peut-être pas les détails des ordres qu'il donnait, mais sachant qu'il est amour par nature, nous pouvons avoir la conviction que ce qu'il demandait était motivé par l'amour. Nous savons également que Dieu est juste et bon, et nous pouvons donc lui faire confiance, même si aujourd'hui, nous ne comprenons pas toutes ses actions. Quand il reviendra, nous pourrons avoir la confirmation que ces jugements sont en effet justes et bons. Il est important de prendre en compte le contexte du plan très large de Dieu pour l'humanité dans nos discussions sur des sujets tels que celui-ci. Ce que nous voulons dire, c'est que lorsque nous étudions des passages difficiles à interpréter, nous ne devrions pas remettre en question le fait qu'ils soient inspirés par Dieu.
les limites de nos connaissances ne doivent pas être le critère en fonction duquel nous définissons ce qui est inspiré ou non dans la parole de Dieu. L'évolution de la compréhension des prophètes. L'un des aspects intéressants du processus de révélation et d'inspiration est le fait que les prophètes ne comprenaient pas nécessairement les messages qu'ils recevaient de Dieu. Rappelons-nous que, parfois, ces messages contenaient des révélations portant sur le long terme et qu'ils concernaient des époques postérieures à celles des prophètes. D'après Pierre, quand les prophètes recevaient des messages concernant les souffrances du Christ, ils s'appliquaient à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux. 1 Pierre 1, verset 10-11. Pierre ajoute ceci. « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses, qui maintenant vous ont été annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle, avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. » Verset 12. Ce message n'était peut-être pas difficile à comprendre, mais les prophètes n'étaient pas certains de ses implications et de la façon dont cela s'accomplirait. Parfois, les prophètes ne comprenaient tout simplement pas les messages qu'ils recevaient, et ils devaient demander au Seigneur de les clarifier. Zacharie eut une vision de chevaux roux, fauves et blancs, mais il ne put comprendre son message. Il demanda donc « Qui sont-ils, mon Seigneur ?» Alors, un ange lui donna plus d'informations afin de rendre le message plus intelligible. Zacharie 1, versets 8-9, voir aussi les versets 18-21. Dans une autre vision, l'ange lui demanda « Que vois-tu ?» Le prophète décrivit la vision et, prenant conscience de son incapacité à la comprendre, il demanda « Qu'est-ce donc, mon Seigneur ?» L'ange, peut-être surpris par la question, demanda au prophète « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Le prophète répondit « Non, mon Seigneur. » Alors le message lui fut expliqué. Zacharie 4, versets 1 à 7. Comme dans l'expérience de Jérémie mentionnée plus haut, l'ange s'assura que le prophète avait bien reçu la vision et qu'il la comprenait. C'est la raison pour laquelle il lui demanda s'il pouvait la décrire avec ses propres mots et si sa signification était claire pour lui. La description verbale correspondait à la révélation accordée au prophète. Petit à petit, celui-ci comprit mieux le contenu de la révélation. On peut aussi mentionner l'expérience de Pierre qui, après avoir reçu à 3 reprises la même vision du Seigneur, était perplexe, diaporeo, autrement dit, être dans la perplexité, sur le sens de la vision qu'il avait eue, acte 10, verset 17. Il n'était pas satisfait de son explication. Plus tard, quand 3 personnes arrivèrent pour lui rendre visite, Pierre réfléchissait, dien suméomai, réfléchir sérieusement à quelque chose, méditer, à la vision, verset 19. L'esprit ne corrigea pas l'erreur d'interprétation de Pierre et il ne lui expliqua pas non plus le sens de la vision. Il demanda simplement à Pierre de suivre les 3 visiteurs. En d'autres termes, l'esprit voulait révéler à l'apôtre le sens de la vision grâce au cours de l'histoire. 2 jours plus tard, il arriva chez Corneille, un gentil. Il lui parla, puis adressa la parole au groupe qui était réuni dans sa maison. « Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Verset 28. Le message divin, qui lui avait été donné dans une vision et qu'il avait mal interprété dans un premier temps, était désormais parfaitement clair. L'esprit le guida pas à pas afin de lui permettre de comprendre pleinement la révélation divine. Dieu utilisa les actions menées par un groupe de croyants pour clarifier le sens de la vision. Abraham pensait que la promesse divine au sujet de la naissance d'un fils s'accomplirait grâce à Ismaël, mais des années plus tard, Dieu clarifia son message. Genèse 21, versets 11-12. Samuel pensait que le Seigneur l'envoyait oindre le fils aîné de Jessé afin qu'il devienne roi, mais le Seigneur le reprit. 1 Samuel 16, versets 6-7. Jérémie pensait que le ministère prophétique auquel il avait été appelé lui permettrait d'éviter de mener une vie caractérisée par les souffrances et le rejet. Jérémie 1, versets 14 à 19. Quand il comprit que son interprétation était erronée, il fut très déçu et il en conclut que le Seigneur était pour lui comme une source trompeuse. Jérémie 15, versets 15 à 18. Les mots qu'il employa étaient si durs que le Seigneur dut le réprimander. Verset 18. Parfois, le Seigneur dut donner davantage d'informations aux prophètes afin de les aider à comprendre le message qu'il voulait leur confier ou de corriger l'interprétation qu'ils en faisaient. Dans tous les cas, nous constatons que Dieu voulait s'assurer que ces messages étaient bien compris. La dimension humaine ne causait pas de tort au processus de révélation et d'inspiration, mais le renforçait. Dieu était à l'œuvre jusqu'à ce que les prophètes reçoivent et comprennent ces messages. Résumé et conclusion. Il est utile pour la discussion et l'analyse du sujet de faire une distinction entre la révélation et l'inspiration, mais cette distinction n'est pas tout à fait conforme au texte biblique. Les auteurs bibliques ne semblaient pas faire cette différence. Ils disaient que le Saint-Esprit portait et guidait les prophètes tout au long du processus de ce que nous appelons la révélation et l'inspiration. Toute doctrine qui distingue les deux sépare ce que la Bible associe. Dans le processus de révélation et d'inspiration, Dieu adapta ses pensées à l'esprit, aux pensées et au langage des prophètes. Quelque chose de merveilleux et de mystérieux se produisait dans l'esprit des prophètes, tandis que l'esprit divin entrait en contact avec l'esprit humain. Cet acte divin d'adaptation nous montre que, dans le processus de révélation et d'inspiration, Dieu et les hommes œuvrent ensemble. Pourtant, cela produisit la parole de Dieu. Toute dichotomie radicale entre les pensées et les mots n'est pas conforme au processus biblique de révélation et d'inspiration. Même si les mots n'étaient pas inspirés, l'Esprit guidait les prophètes tandis qu'ils communiquaient le message reçu à leur auditoire. Les mots n'étaient pas inspirés dans le sens où Dieu communiquait un message non pas dans son propre langage, mais dans le langage et avec le vocabulaire des prophètes. Les pensées divines étaient exprimées grâce au langage, à la grammaire et aux expressions culturelles des auteurs. Cependant, même dans ce processus, Dieu guidait les prophètes de façon à ce qu'ils puissent utiliser au mieux leurs compétences cognitives et linguistiques dans la transmission de leurs messages. Ainsi, la fiabilité et la véracité des messages étaient confirmées par Dieu, qu'ils soient transmis oralement ou par écrit. Le processus de rédaction de l'Écriture révèle que, par l'Esprit, Dieu peut guider les prophètes de façon à ce qu'ils sélectionnent et adaptent des ressources contenant des informations utiles aux auteurs bibliques. Ce qui n'était pas une révélation divine au départ, pouvait par la suite faire partie d'un ensemble de messages révélés grâce à un processus de révision et d'adaptation guidé par l'Esprit. Les déclarations humaines devenaient ainsi partie intégrante de la parole de Dieu.